Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. C'est notre dernier rendez-vous de la semaine, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jean-Guilain Meige. Voilà un texte législatif qui n'aura pas traîné longtemps dans les tiroirs. Évoqué au printemps, présenté en Conseil des ministres au mois d'août, le projet de loi de lutte contre le terrorisme, proposé par le ministre de l'Intérieur, a été adopté en fin de matinée, au terme de trois petites journées de discussion à l'Assemblée nationale. Adoption à une très large majorité, puisque seul le groupe écologiste avait décidé de s'abstenir. Il ne reste plus désormais qu'à faire passer le texte au Sénat, sans doute fin octobre, et le tour sera joué. Le gouvernement a en effet choisi la procédure accélérée, considérant qu'il y a urgence à modifier une législation pourtant déjà bien étoffée, puisque depuis 1986, 14 lois sur le sujet ont été votées. La principale innovation de ce texte consiste à créer un nouveau délit d'entreprise terroriste individuelle. L'objectif affiché est de pouvoir répondre aux nouvelles formes de terrorisme symbolisées par ceux que l'on a appelés les loups solitaires et incarnés par Mohamed Merah ou encore Mehdine Mouche. Des interdictions de sortie de territoire pourront être prononcées dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un individu part à l'étranger pour se livrer à des activités terroristes. Par ailleurs, l'apologie du terrorisme sur Internet pourra faire l'objet de mesures administratives obligeant, par exemple, les fournisseurs d'accès à bloquer certains sites. Alors pour le président socialiste de la Commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, ces restrictions aux libertés sont proportionnées à la menace à laquelle le pays doit faire face, mais tout le monde ne partage peut-être pas cet avis. Alors la législation antiterroriste menace-t-elle les libertés publiques? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Christine Lazerge. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et ce depuis août 2012. Vous êtes par ailleurs professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez été député socialiste de l'Hérault de 1997 à 2002. Pour discuter avec vous ce soir, Thibaut de Montbrial. Bonsoir.
Bonsoir.
Avocat au barreau de Paris, vous aviez co-signé et vous étiez venu nous en parler à l'époque, c'était au printemps, une tribune dans le Figaro, co-signée avec notamment le juge Marc Trévidic. Tribune intitulée « Agir contre le djihadisme et ses ressorts ». Vous considériez à l'époque que la France était en retard en matière de législation, qu'il y avait une nécessité de l'adapter, ce qui vient d'être fait. Je ne sais pas, et on va aller assez rapidement sur le fond des choses, mais si sur la forme, déjà, vous êtes satisfait. La forme, je la rappelle, c'est une procédure accélérée qui a été décidée par le gouvernement. Ça veut dire qu'il y aura une seule lecture à l'Assemblée nationale, une seule lecture au Sénat pour faire passer le texte un petit peu plus vite. Est-ce que vous considérez, Thibaut Montbrial, qu'il y avait vraiment urgence à modifier la loi ?
Je ne suis pas le seul à le considérer. Lundi, dans le Parisien, le patron de l'UCLAT, qui est l'unité centrale de lutte contre le terrorisme, donc est un des plus hauts fonctionnaires en charge de la lutte contre le terrorisme en France, a fait une déclaration qui ne ressemble pas aux fonctions qui sont la sienne, d'une part, le fait déjà de faire une déclaration, et ensuite, il a dit, dans le Parisien, ainsi que sur les plateaux de télévision, que la question aujourd'hui n'était plus de savoir si la France allait être frappée par une vague d'attentats, mais quand cette vague allait commencer.
Oui, mais la France dispose d'un arsenal législatif pour lutter contre le terrorisme. Il y a eu une loi, par exemple, fin 2012. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a fallu voter une nouvelle loi, c'est que la loi était mauvaise à l'époque?
Entre fin 2012 et aujourd'hui, il y a eu un changement absolument fondamental et qui est le suivant. Fin 2012, la guerre n'avait pas encore commencé en Syrie, ou en tout cas, elle n'avait pas encore pris l'ampleur pour ce qui concerne l'appel d'air qu'a constitué le front syrien pour ce qu'on allait appeler les djihadistes européens. Ce phénomène était encore embryonnaire. Entre fin 2012 et fin 2013, les pays occidentaux, et la France en particulier, se sont rendus compte que le conflit syrien constituait de façon totalement imprévue un véritable appel d'air, je reprends l'expression, mais il n'y en a pas de meilleur, et que des dizaines, puis des centaines de jeunes Français ou de jeunes étrangers nés en France avaient la tentation et partaient pour combattre sur ce front. Et j'ajoute que depuis la fois où vous avez eu la gentillesse de m'inviter en juin et depuis la tribune que j'avais rédigée, il y a encore eu une aggravation de la situation, puisqu'il y a eu la création de l'État islamique autoproclamé et que cet État islamique, en offrant un cadre cette fois-ci aux jeunes aventuriers djihadistes, a multiplié encore le nombre de départs. Donc nous sommes face, par rapport, vous parliez de la loi de 2012, nous sommes face à une nouvelle menace qui est une menace intérieures, nombreuses, et qui est pour partie constituée par des gens qui sont tout seuls. Et il n'y avait pas de texte pour les empêcher d'agir.
Alors Christine Lazerge, est-ce que ces changements, est-ce que ce contexte particulier dans lequel nous évoluons aujourd'hui justifie que l'on prenne des mesures en urgence, quitte à raboter un peu le débat parlementaire ?
Alors c'est une question délicate parce qu'on ne peut pas nier la difficulté de la situation aujourd'hui, mais on ne peut pas nier non plus que lorsque l'on abandonne les fondamentaux du droit pénal et le contrôle de l'action de l'administration, on va droit dans le rognement des libertés. Je veux juste expliciter en deux mots de quelle place je parle. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a la mission principale d'être une vigie. Et Robert Badinter dit de cette CNCDH qu'elle est une compagnie de vigilants. Donc notre vigilance nous a conduit, dès que le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres, à rencontrer le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, à échanger et à considérer, comme nous le considérons d'ailleurs systématiquement, que ce n'est pas une bonne façon de légiférer que de choisir la procédure accélérée. Et or, le constat aujourd'hui, c'est que le problème soit très grave, moyennement grave ou peu grave, on ne laisse plus au Parlement le temps de la navette complémentaire, la navette parlementaire complète.
Pourquoi est-ce que ça n'est pas une bonne chose ? Parce qu'on risque d'oublier ou de mal mesurer l'impact du nouvel arsenal ?
Absolument. D'abord, on ne se donne pas le temps d'une étude d'impact et on ne se donne pas le temps de réfléchir aux effets pervers, éventuellement, aux dommages collatéraux que la loi nouvelle peut entraîner. Et si je prends l'exemple d'une loi de 2000 qui est connue, la loi renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, s'il y avait eu la procédure d'urgence, nous ne serions pas arrivés à l'appel des décisions de cour d'assises. Or voilà une avancée considérable qui n'a existé que parce que la navette parlementaire a été complète.
Thibault de Montbrial, on aurait pu attendre 6 mois supplémentaires.
On n'aurait pas du tout pu attendre 6 mois supplémentaires parce que...
Si, bien sûr.
Non, mais on peut aussi attendre 10 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que ce débat est très intéressant parce que ce que vous dites, madame, est parfaitement exact pour ce qui concerne la loi de 2000, mais la loi de 2000 n'a absolument rien à voir en termes d'urgence et je vais vous expliquer pourquoi. La France est à l'aube aujourd'hui. Tous les spécialistes de l'antiterrorisme le disent, et en privé de façon encore plus brutale qu'en public, la France est à l'aube d'une vague de violence telle qu'elle n'en a pas connue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois depuis 3 générations que nous allons affronter un ennemi de l'intérieur, composé de gens qui sont nombreux, déterminés, et depuis qu'ils sont allés combattre au Moyen-Orient, aguerris, avec du matériel militaire de haut niveau qu'il est très facile de trouver en France aujourd'hui, des explosifs, des armes de guerre. Et que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce à quoi va ressembler le paysage français dans les mois qui viennent. Aucune. C'est malheureusement...
On peut même imaginer que c'est la totalité des gens qui n'ont pas la moindre idée de ce à quoi va ressembler.
C'est pourquoi je vous dis, la question était de savoir s'il y a une urgence, je vous dis, il y a une urgence, c'est une urgence vitale. Et je crains d'ailleurs toute façon que ce ne soit pas suffisant.
Christine Alors Lazerge. Moi je voudrais dire que l'urgence absolue, c'est de prendre des mesures préventives beaucoup plus importantes que celles qui sont prises. Et jouer sur les peurs me paraît extrêmement dangereux. Les jeunes djihadistes sont pour la plupart d'entre eux des adultes perdus, qui n'ont guère d'espérance et d'avenir dans ce propre pays, qui se réfugient dans un fondamentalisme barbare, souvent. Et jouer sur la peur pour légiférer, ça n'est pas légiférer sereinement. Ceci étant, le texte en question, nous avons participé à faire que les droits de la défense soient plus présent, plus réel. Et donc la CNCDH a joué tout son rôle en participant, en auditionnant, en rencontrant un certain nombre d'autorités et de parlementaires. On a été auditionnés à l'Assemblée nationale, au Sénat. Mais donc pour dire que ce n'est pas un rejet catégorique, mais sur la façon de légiférer trop vite Et légiférer sur les peurs n'est pas une bonne méthode.
Alors comme je vous le disais, Christine Lazerge et Thibaut de Montbrial, on va aller dans quelques minutes à l'examen sur le fond de quelques mesures emblématiques pour voir si elles contribuent à limiter les libertés publiques ou pas. Mais je voudrais que nous rejoigne pour quelques minutes un troisième invité qui a marqué les esprits ces dernières heures. Il s'agit, enfin ces derniers mois d'ailleurs également, hein. Il s'agit de Pierre Torres. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Vous êtes au téléphone depuis Glasgow en Écosse. Vous êtes photographe indépendant. Vous êtes un des quatre journalistes français à avoir été enlevé en Syrie en juin 2013 en ce qui vous concerne. Vous avez été libéré en avril 2014. En juin 2014, donc quelques semaines plus tard, vous avez été convoqué avec les autres anciens otages à la DCRI, c'est-à-dire la Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Et hier, donc, vous avez signé une tribune assez cinglante dans Le Monde que le journal intitulé « J'ai commis l'erreur de collaborer avec les services de l'antiterrorisme français ». Alors, vous, ce que vous expliquez, je vais me permettre de résumer. J'invite vraiment toutes les auditrices et tous les auditeurs à lire cette tribune. Mais c'est que, en gros, vous émettez un doute par rapport à la figure dont on présente aujourd'hui Mehdi Nemmouche, c'est-à-dire qu'il ne serait plus un loup solitaire un peu paumé, mais quelqu'un qui serait beaucoup plus dangereux et beaucoup plus idéologisé. Et vous laissez entendre que les fuites qui ont eu lieu dans la presse dernièrement étaient peut-être destinées à faire passer justement la nouvelle loi antiterroriste. Est-ce que j'ai bien résumé votre pensée ?
Oui, effectivement, j'ai pas très très bien entendu la partie sur le Mehdi Nemmouche. Effectivement, ce que je disais, c'est que la question idéologique, en particulier les questions islamistes, est pas très forte chez lui. C'est plus un problème personnel.
Vous écrivez, Pierre Torres, du point de vue des organisateurs de cette fuite, hein, puisqu'on a appris il y a quelques jours que Mehdi Nemmouche faisait partie de vos geôliers, ce qu'on ne savait pas jusqu'à présent. Donc, du point de vue des organisateurs de cette fuite, toute l'artillerie sémantique est déballée afin de finir de nous convaincre que nous avons toutes les raisons d'avoir peur.
Oui.
Est-ce que vous pouvez un petit peu développer, peut-être ?
Effectivement, Mehdi Nemmouche est tout sauf un idéologue. En particulier, l'islam a une part extrêmement faible dans son discours et dans ses préoccupations. C'est quelqu'un qui est fasciné par tout ce qui va être la presse de police-justice. Et par exemple, bon, si on s'intéresse aux mesures qui sont envisagées, c'est-à-dire de fermer l'accès à tous les sites qui appellent au djihad, ce genre de choses. Pour peut-être d'autres gens, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, pour Mehdi Nemmouche, ça n'a aucun intérêt. Vaut mieux interdire la rubrique police-justice dans l'ensemble de la presse que de faire ça.
Est-ce que vous, Pierre Torres, vous avez donc été interrogé par les services du renseignement. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on essayait de vous faire dire que Mehdi Nemmouche était plus dangereux qu'il ne vous avait paru, peut-être, pour justement aller vers un renforcement de la législation antiterroriste ? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu ? Ou en tout cas, est-ce que c'est comme ça que vous l'analysez aujourd'hui ?
Non, quand même pas. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ils n'ont pas essayé de me faire dire des choses. Moi, ce que je leur reproche, c'est d'avoir tout simplement laissé fuiter ça, sachant l'écho que ça aurait dans les médias et sachant l'imaginaire, la peur que ça allait susciter. Il n'y avait pas besoin de pousser la chose plus loin, non.
Christine Lazerge, vous avez lu Thibaut de Montbrial également, hein, cette tribune de Pierre Torres. Christine Lazerge, est-ce que vous trouvez qu'il pose de bonnes questions ?
En tout cas, il pose des questions qu'il faut se poser. Il pose des questions qu'il faut se poser et il explique bien, au fond, l'espèce de folie et de détresse, de mélange de folie et de détresse dans laquelle se trouvent ces loups solitaires. Voilà. Donc, je pense que il pouvait être en effet important en prenant le temps de légiférer, de voir ce qui était possible de faire, de vérifier si on n'avait pas de texte dans le code pénal permettant de poursuivre des personnes de ce type. A priori, on en a, mais c'est peut-être la procédure très spéciale et très dérogatoire par rapport aux principes fondamentaux qui ne peut pas alors être appliquée. Donc, on a des textes pour poursuivre des assassins. On a tout ce qu'il faut. Poursuivre des assassins. Si on en vient à... Mais peut-être que vous voulez qu'on... Je ne sais pas si on va y venir tout de suite.
Je vais déjà faire réagir Thibault de Montbrial par rapport à ce que disait Pierre Torres et ensuite, effectivement...
Sur son appréciation du travail des services ou sur Medine Mouche ? Parce que c'est deux choses différentes.
Sur l'appréciation peut-être plutôt du travail des services.
Alors sur l'appréciation du travail des services, moi, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile. Il raconte une expérience, il est tout à fait légitime à la raconter. Maintenant, si vous me demandez de commenter, j'ai deux commentaires très brefs. Le premier, c'est que Monsieur Torres est un petit peu ingrat parce que dans toute la première partie de ce qui lui est arrivé, il oublie le rôle des services de renseignement français pour le faire libérer. Donc c'est bien de critiquer la suite, mais il aurait peut-être quand même fallu rappeler ce premier point. Et le deuxième point, et c'est un point qui est peut-être plus constructif, c'est que j'ai lu et relu sa tribune, Monsieur Torres dit que ce sont les services de renseignement ou les juges antiterroristes qui ont fait fuiter les PV de Medine Mouche, relatifs à Medine Mouche. Moi, je pose juste la question. Dans les affaires terroristes, le pouvoir est au courant dans l'heure des PV qui sont rédigés. Et qu'est-ce qui nous... Alors qu'il y a une fuite, c'est manifeste, puisque le PV a été publié. Mais qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas quelqu'un de ressort de l'autorité politique qui a fait la fuite? Pourquoi est-ce que ce serait nécessairement les fonctionnaires des services? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, la question se pose.
On va laisser répondre une dernière fois Pierre Torres, puis ensuite on vous laissera, parce que c'est vrai que la communication avec l'Écosse est un petit peu compliquée. Pierre Torres, un dernier mot.
Une réaction par rapport à cette dernière question sur, mon propos, c'est pas de dire que c'est l'œuvre de tel ou tel fonctionnaire. Non, je pense en effet que cette décision, elle a été prise en tout cas avec l'accord du plus haut niveau, si ce n'est directement sur demande du ministre. Ça tombe extrêmement bien avec l'agenda parlementaire et l'intervention du ministre sur ce texte devant l'Assemblée nationale est un élément assez troublant. Après, effectivement, en pratique, qui a appelé un journaliste, qui lui a donné les dossiers, hein, je veux dire, de façon très pratique, ça, à mon avis, ça s'est géré à un niveau inférieur.
Voilà, merci beaucoup en tout cas Pierre Torres d'avoir été avec nous pendant quelques minutes en direct. Je le redis, hein, voilà, je renvoie à ceux qui nous écoutent à aller lire l'intégralité de votre tribune. On va passer maintenant peut-être sur le fond pour pas qu'on perde trop de temps, hein, Thibault de Montbrial et Christine Lazerge, avec ces innovations juridiques qui sont proposées dans cette nouvelle loi antiterroriste et ce fameux nouveau délit d'entreprise terroriste individuel. Alors là, j'imagine, Thibault de Montbrial, que vous devez être assez satisfait par ce nouveau dispositif, puisque on pouvait le lire presque de cette manière-là dans la tribune que vous aviez co-signée avec Marc Trévidic.
C'est de cette manière-là. Il y avait juste l'expression entreprise terroriste individuelle qui n'y figurait pas. C'est une satisfaction de tous les praticiens de l'antiterrorisme. Et encore une fois, parce que les outils existants ne permettaient plus de faire ce que le délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste avait permis de faire pendant 20 ans, c'est-à-dire du préventif.
Mais oui, parce que vous dites ce délit-là d'association de malfaiteurs, il a marché. Il n'y a pas eu d'attentat majeur en France depuis une vingtaine d'années.
Alors, il faut être précis. On estime qu'il y a une quinzaine d'attentats majeurs qui ont été évités. Le public a entendu parler, s'il lit de près les questions relatives au terrorisme, de certains attentats comme le marché de Strasbourg ou la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y en a eu d'autres. On estime qu'il y en a une quinzaine. Bon, les succès, on n'en parle pas beaucoup. Quand l'antiterrorisme marche, on n'en parle pas. Soyez sûr que le premier jour où ça ne va pas marcher, on va beaucoup en parler. Ce dont on s'est rendu compte, ce dont les magistrats se sont rendus compte, c'est que compte tenu du phénomène des djihadistes dont on parlait il y a un instant, c'est-à-dire de cette vague apparue il y a une petite année et qui est en croissance exponentielle, il y avait un risque, mais un risque aigu, de gens qui ne se mettent plus à plusieurs, mais qui se préparent seuls à commettre un attentat. Et qu'avec ces gens, il faut que l'État ait les moyens préventifs, des moyens préventifs, comme l'association de malfaiteurs l'a été et l'est encore pour les groupes, parce que ça marche encore pour les groupes qui pourraient agir. Et donc, il fallait cet outil qui va permettre du préventif sur des personnes, sur des individus.
Alors là, justement, est-ce que le caractère préventif pose problème à la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Christine Lazerge?
Évidemment, les principes fondamentaux du droit pénal, l'assise même des poursuites, le respect de la présomption d'innocence, et que sais-je encore, exige qu'il y ait un commencement d'exécution avant que l'on ne poursuive. On avait cette dérogation association de malfaiteurs qu'on justifiait en disant ils sont plusieurs et ils organisent un certain nombre de faits. On a un exemple nouveau, c'est pas le premier, non, mais un exemple nouveau de poursuites et de condamnations très lourdes possibles sur des actes préparatoires. Et en termes de preuves, on s'expose éventuellement à des relaxes. Parce qu'il va être quand même les magistrats ont pour mission...
Il vaut peut-être mieux s'exposer à des relaxes qu'à des attentats, non, Christine Lazerge? Enfin, si je peux caricaturer un petit peu...
Vous me l'ôtez de la bouche.
Oui, il vaut mieux s'exposer à des relaxes qu'à des attentats. Mais vous pensez réellement qu'on va poursuivre tous ceux qui, dans ce pays, commettent ces faits qui sont très en amont de l'infraction et dont on ne sait pas s'ils vont conduire à la commission d'une infraction lourde de terrorisme. On ne peut pas, l'auteur anglais parle à cet égard d'injustice de la prévention, on ne peut pas abandonner tout des fondements de l'état de droit au motif qu'on éviterait un ou deux crimes terroristes.
Alors, trois observations très rapides. Le premier, c'est du domaine de l'anecdote de praticien. C'est qu'une ou deux fois par an, il y a des dossiers dans lesquels on se rend compte de grand banditisme, dans lesquels on se rend compte que la police judiciaire surveillait des individus. Il y avait des balises sous les voitures, il y avait bref, toutes sortes de surveillances. Et ne voulant pas agir en association de malfaiteurs, mais voulant attendre un commencement d'exécution, les policiers continuent à surveiller. Et puis un matin, ils voient les gens partir, ils pensent que le coup n'est pas encore pour tout de suite. Et tout à coup, le braquage a lieu sous les yeux des policiers. Il y a un procès à Lyon en ce moment, et il y en aura un à Paris l'année prochaine. Point commun entre les deux, un mort à chaque fois. Bon, on peut dire un mort, c'est pas grave, ça vaut la liberté de ne pas avoir arrêté les gens plutôt pour AMT, pour association de malfaiteurs. C'est une question philosophique que tous les services de police judiciaire se posent, qu'on soit en matière de grand banditisme, et ils se la poseront, et ils se la posent déjà, en matière d'association de malfaiteurs terroristes.
Oui, ils se la posent déjà.
Ils se la posent déjà, bien sûr. Deuxième élément de réponse, le drame, c'est l'augmentation du nombre, parce qu'on n'a pas assez de fonctionnaires et d'éléments et d'outils pour surveiller tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
Qu'on n'a pas assez de fonctionnaires, on va modifier la loi pallier le manque de fonctionnaires.
Mais vous voudriez vraiment qu'on surveille tout le monde?
Laissez-moi finir.
Qu'on soit dans une société de contrôle total?
Est-ce que je peux finir ma phrase?
C'est fini les libertés.
Je suis d'accord avec vous. Si vous me coupez et que vous dites juste ça, là, je suis d'accord avec vous. Mais laissez-moi quand même finir ma phrase. Ce que je veux dire, c'est que si on considère que des individus sont dangereux, mais qu'il faut attendre un commencement d'exécution. Ça veut dire que le danger est identifié et qu'on les surveille comme le lait sur le feu. Et dès qu'on passe à l'intention pénale caractérisée, comme vous le dites, commencement d'exécution, hop, faut intervenir. Mais là, on est dans le domaine de l'heure. On n'est pas sur des semaines, on est sur une heure. Donc ça veut dire qu'il faut avoir identifié des gens dangereux et les surveiller. Moi, je vous dis qu'avec avec la loi telle qu'elle a été votée, il y a un article 5 auquel les auditeurs pourront se référer, il y a un certain nombre de conditions que les enquêteurs et le parquet dont les enquêteurs et le parquet devront rapporter la preuve. C'est pas juste comme ça. Ah, il a une tête qui nous revient pas. Il a été en Syrie. On va l'interpeller. Évidemment qu'il y a des éléments objectifs.
Il y a des garde-fous, Christine Lazerge. Ensuite, vous laisserai terminer, Thibault. Oui, les garde-fous, ils existent.
Heureusement, il y a quelques garde-fous, mais le texte ne répond pas quand même à la précision que l'on attend dans la définition des éléments constitutifs d'une infraction. Mais il y a il y a des garde-fous. Nous-mêmes, nous avons demandé que, à la fois pour la preuve de l'élément intentionnel et pour la preuve de l'élément matériel, la matérialité des faits de terrorisme, il n'y ait pas simplement, par exemple, le fait d'être allé rechercher sur Internet un site qui puisse inciter au djihad. Donc, le texte a été travaillé. Je ne dis pas du tout que le texte n'a pas été travaillé. Et je dis qu'une fois, une nouvelle fois, on porte atteinte quand même aux fondamentaux de la répression pénale, aux fondamentaux. Évidemment, on aura plus d'erreurs judiciaires que l'on en avait. Et je veux dire très fermement que le terrorisme n'autorise pas tout et que la plus grande victoire serait de mettre en péril l'état de droit.
Est-ce que vous, Thibault de Montbrial, vous dites ce texte ne porte pas du tout atteinte aux libertés, ou bien est-ce que vous dites oui, il porte un peu atteinte aux libertés, mais de façon suffisamment modérée et en tout cas nécessaire pour lutter contre le terrorisme?
Tous les textes pénaux portent atteinte aux libertés. Tous les textes pénaux. Évidemment que ce texte porte un certain nombre d'atteintes aux libertés. On les prendra peut-être. Par exemple, l'interdiction de sortir du territoire. Évidemment que c'est une atteinte aux libertés. La question, c'est
la liberté de circuler.
Mais moi, je vais vous poser une question philosophique. Pardon, on va faire 2 secondes de philosophie du droit.
Vous pouvez y aller. Hein,
quelle est la valeur, quelle serait la valeur des libertés si on ne pouvait pas les exercer? C'est-à-dire, si au nom des libertés, on prenait aucune mesure particulière contre un risque qui est identifié. C'est pas un risque putatif, c'est un risque qui est identifié. Et imaginez qu'on ne puisse plus circuler parce que vous avez toujours le droit d'aller au cinéma ou de vous déplacer de Paris à Lyon en TGV, sauf que vous savez que tous les 3-4 jours ou tous les 3-4 semaines, il y a une bombe qui explose. Plus personne ne circulera si ça arrive. Elle est où la liberté ? Attends. Deuxième exemple qui met encore plus cher à titre personnel, la liberté d'expression. Il y a une grosse pression sur les gens qui expriment mon point de vue en ce moment sur les sujets du terrorisme islamiste. Il y a une grosse pression et sur les hommes politiques qui s'engagent également. Pourquoi ? Parce que vous imaginez bien qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de ce genre de prise de position. Or, quelle serait la valeur d'une liberté d'expression si à chaque fois que des gens s'expriment, ils s'exposent à des menaces de mort, à une fatwa et peut-être demain à des attentats ? Plus personne ne prendrait la parole.
Vous faites une description absolument catastrophiste du devenir de ce pays. Et réellement, si nous menons une politique ferme, par exemple en politique de la ville, auprès de ces jeunes totalement désespérés sur leur avenir et qui, du coup, je le disais tout à l'heure, mais je veux le redire, se réfugient dans des doctrines folles et dans des projets fous et meurtriers, eh bien... c'est plus de ce côté-là, en prévention, qu'il faut agir, que de croire au risque zéro et que de dire qu'il va falloir inventer encore quantité de contrôle des uns et des autres, et pas seulement forcément des djihadistes.
Mais vous avez raison, mais on ne parle pas de la même chose. Vous me parlez politique de prévention. Évidemment que vous avez raison,
mais
politique de la ville, etc.
Mais je parle aussi politique de répression.
Mais attendez, je vous réponds. Vous m'imputez une description catastrophique de l'évolution de ce pays. Je vous dis que la prévention et le fait de s'occuper de jeunes qui sont totalement paumés, vous avez raison. Ça, c'est de prévenir les années qui viennent. Moi, je vous parle de prévenir les semaines qui viennent. On n'est pas sur la même échelle. On n'est pas sur la même échelle.
Oui, parce que là, vous faites preuve quand même. 900, les chiffres d'aujourd'hui, c'est 900 djihadistes.
Identifiés.
Oui, identifiés.
Estimation 3000.
65 millions d'habitants. Et tout de même, nous ne sommes pas du tout dans un état policier, mais des services de gendarmerie et de police qui font tout ce qu'ils peuvent pour les identifier assez tôt. Et on ne peut pas dire qu'il y ait... Avant cette loi, nous n'avons pas eu ici, en France, d'actes terroristes particulièrement liés au départ au djihad.
Est-ce que ça veut
dire
pour vous...
Je comprends très bien qu'on prenne des précautions, mais je veux que vous mesuriez combien la politique ou la tentation du risque zéro peut porter atteinte à nos libertés fondamentales.
Est-ce que vous considérez, Christine Lazerge, que limiter la liberté de certains, ça revient... forcément et systématiquement à limiter la liberté de chacun d'entre nous.
Eh bien, finalement, potentiellement, oui. Mais je ne dis pas par là que je suis hostile à l'interdiction administrative de quitter le territoire. Je pense qu'il fallait le faire, mais nous pensons très clairement qu'il fallait que la décision soit précédée d'un débat contradictoire et qu'on soit dans les clous des droits fondamentaux. Mais la CNCDH, dans son avis, ne se prononce pas contre cette atteinte majeure à la liberté d'aller et de venir. On demande que cette atteinte majeure intervienne après un débat contradictoire et pas avant le débat contradictoire.
Vous le demandez d'ailleurs officiellement, il y a un avis qui va être rendu
très rapidement. Oui, bien sûr, l'avis est rendu
rapidement.
Jeudi prochain. Et l'Assemblée nationale et le Sénat ont eu une version intermédiaire avant qu'il ne soit adopté par notre Assemblée.
Thibault de Montbrial, vous évoquiez la liberté d'expression. Alors moi, je veux dire qu'il y a quelque chose qui m'embarrasse un petit peu, justement, dans le débat actuel. Alors c'est d'ailleurs beaucoup à travers la prise de parole de certains politiques. Mais en l'occurrence, alors j'ai mentionné tout à l'heure l'intervention de Jean-Jacques Urvoas, donc président socialiste de la Commission des lois, qui, dans le monde d'aujourd'hui, dit également « Alors, les adversaires du texte partagent une même hostilité de principe à toute législation antiterroriste. Bernard Cazeneuve parle d'un consensus républicain pour voter la loi. » C'est-à-dire, ça laisse entendre qu'en gros, si on émet des réserves ou des critiques sur cette loi, on n'est pas un bon républicain. La liberté d'expression, c'est aussi de pouvoir mettre en question ce sujet et ces mesures qui sont prises.
Il ne vous aura pas échappé que je ne suis ni membre de ce gouvernement, ni élu de la République. Et que je me suis engagé, du fait de mes fonctions professionnelles, dans ce que j'estime être de mon côté un combat citoyen du point de l'observatoire qui est le mien, notamment contre le terrorisme, parce que je pense qu'il y a un vrai problème. Alors, je n'ai pas lu Le Monde aujourd'hui. Ce que je dis, c'est évidemment que chacun doit pouvoir débattre. Je me réjouis de débattre avec vous, madame. J'ai lu l'avis de votre commission avec beaucoup d'intérêt. Et heureusement que des gens s'expriment. Ce qui est vrai, alors les politiques ne peuvent pas le dire comme ça. Moi, j'ai une beaucoup plus grande liberté de parole. Mais ce que veulent sans doute dire messieurs Urvoas et Cazeneuve, parce qu'eux le savent, mais ils ne liront jamais le dire en direct à la radio, et moi, je suis un tout petit peu plus libre de le dire, c'est qu'eux savent que nous sommes à l'aube d'événements qui sont dramatiques et qu'eux vont devoir gérer du poste qui est le leur. Moi, je n'aurais pas à le gérer. Je pourrais le commenter, je pourrais intervenir aux côtés de victimes, etc., ou de policiers, mais je n'aurais pas à le gérer politiquement. Eux vont devoir le faire, et ils savent que ça va arriver. C'est peut-être pour ça qu'ils tiennent les propos que vous venez de rappeler.
Quantitativement, en tout cas, ce que nous avons de plus difficile à gérer dans les mois qui viennent, c'est le sentiment d'exclusion et de discrimination dont souffrent quantité de jeunes adultes dans ce pays, ou de mineurs. Et nous le disons dans notre avis. D'ailleurs, l'Union européenne demande à tous les États membres de mettre l'accent le plus fortement possible sur l'accompagnement de ces mineurs, on peut dire en détresse ou en folie. Enfin, on peut utiliser tous les qualificatifs que l'on veut. Et je ne voudrais pas, en tout cas la CNCDH ne voudrait pas, que des dispositions puissent accentuer encore des dispositions nouvelles dans la lutte contre le terrorisme, accentuer encore ce sentiment d'exclusion qui est déjà extrême.
On va quand même pas faire comme si c'était des jeunes protestants qui étaient dans la logique terroriste actuelle. Il y a une réalité. Donc là où je vous rejoins, non, mais je veux dire que si identifier une menace, c'est stigmatiser des gens. Là, on a un vrai problème de liberté d'expression.
Ce ne sont pas de jeunes musulmans dans la logique de l'islam. Hein.
Non, mais ça c'est vrai, mais c'est pas le débat. C'est comme ce que disait Monsieur Torres tout à l'heure en disant mais Mouche, il a aucune conviction religieuse. C'est pas le problème. Il le fait que ce soit de façon dévoyée, il le fait au nom d'une religion.
Je dis que le danger. Et que l'ensemble de certaines catégories de jeunes en difficulté pensent que c'est eux aussi qui sont stigmatisés par ces mesures. J'espère que non.
Alors, on évoque ce texte législatif qui a été voté en fin de matinée par les députés à l'Assemblée nationale, bientôt au Sénat, ce sera fin octobre normalement. Est-ce qu'un jour, il va falloir encore faire davantage? Alors, il y a certains élus, alors, en l'occurrence, c'est un UMP que je vais citer cette fois-ci, c'est Xavier Bertrand, et c'est le Figaro, c'est dans le Figaro qu'il était interviewé il y a quelques jours, qui, lui, considère que la loi qui vient d'être votée, elle va encore pas assez loin, et qu'il faudrait étudier, par exemple, dit-il, la possibilité de retirer donc aux personnes qui seraient incriminées, au besoin, leurs droits sociaux et même la nationalité française. Est-ce qu'à un moment donné, il faut quand même pas mettre des barrières et dire, enfin voilà, on vote une loi, il faut qu'elle soit efficace, mais on va pas en refaire une tous les ans. Parce que, imaginons, Thibault de Montbrial, qui est un attentat qui se déroule sur le sol français. Est-ce que la réaction politique ne risque pas d'être... il faut qu'on modifie encore notre arsenal parce qu'on a la preuve là que ce qu'on avait voté, ça n'a pas suffi.
Alors, il y aura sûrement, quand il y aura des attentats, il y aura une adaptation en fonction de situations concrètes que, par définition, on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Il y aura sûrement une adaptation au mode de vie qui sera législative ou réglementaire, mais qui sera une réaction concrète à ce qui se passera. Ça me paraît... juste pour répondre à un deuxième point, la déchéance de la nationalité, je m'exprime là en mon nom personnel total, pas du tout avec d'autres gens avec qui j'ai pu signer des articles. Moi, j'y suis favorable pour une raison que je vais vous expliquer en deux mots. C'est-à-dire que... D'abord, elle ne pourrait, du fait des conventions internationales auxquelles la France est liée, elle ne pourrait s'appliquer à des gens qui ont la double nationalité.
Mais parce que si je suis français, comme des...
Voilà, non, ça, c'est pas possible.
Non,
c'est hors débat. Ça, c'est hors débat. Le débat, c'est les binationaux. Et pour les binationaux, moi, j'y suis favorable pour des raisons symboliques. Et il y a des moments où les symboles sont importants. Et je vous explique en une phrase, c'est qu'il y a un moment où commettre des actes de violence extrême contre une société, contre des principes républicains qui sont le reflet de votre citoyenneté, ben, y a un moment où il faut aller au bout de la logique et il faut se sortir ou être sorti de cette citoyenneté. Donc, mais ça, c'est une position personnelle.
Ça n'est pas la mienne, ça n'est pas celle que défend la CNCDH. Je pense que la meilleure des préventions, c'est de renforcer le rattachement de ces jeunes à la République, de renforcer leur adhésion aux valeurs de la République. Je ne crois pas beaucoup, c'est le député Ciotti qui a préconisé des programmes de déradicalisation dans les établissements pénitentiaires. Ça me paraît difficile. Par contre, il faut être vigilant sur le fait que souvent, l'appel au djihad se fait chez des personnes détenues. Et que sans doute, là, il y a un accompagnement justement en amont, plus qu'une déradicalisation en aval, qui n'existe pas ou qui existe insuffisamment. Vous savez, j'ai été députée. Au fond, ce qui est le plus facile, c'est de légiférer. Ce qui est tellement plus difficile, c'est un, de mettre en œuvre, et deux, de prendre les mesures sociales, les mesures d'éducation qui peuvent justement avoir un effet. Et légiférer sur chaque fait divers, c'est quelque chose à quoi la CNCDH est très attentive. On a pendant des années voté une loi pénale après chaque drame. Arrêtons, là. On a pris des mesures plus sévères. On avait pris d'autres mesures il y a 2 ans. J'espère qu'on ne sera pas obligé de légiférer dans 6 mois pour renforcer la lutte contre le terrorisme.
Et Thibault de Montréal n'est pas d'accord, mais vraiment
non,
d'un mot.
D'un mot. Non, mais ça, ce n'est pas une loi sous le coup de l'émotion. La tribune que le juge Trévidic et moi-même, avec Jean-Charles Brizard, avons signée, elle date d'avril. Mais mouche, c'est fin mai. Il y a tous les spécialistes de l'antiterrorisme le demandent depuis le début de l'année 2014, quand ils ont compris l'évolution du phénomène djihadiste. Ils n'ont pas attendu Bruxelles.
Bon, alors, il y a une loi qui a été prise sous le coup de l'émotion, qu'on n'a pas évoquée. On n'a pas fait ce parallèle avec le Patriot Act. Fin 2001, après les attentats du 11 septembre. Je voudrais juste en dire un mot. Donc, c'était cette législation d'exception prise aux États-Unis qui permettait notamment des détentions sans limite et sans inculpation de toute personne soupçonnée de terrorisme. Est-ce que vous pensez, Christine Lazerge, qu'en France, on est à l'abri de ce genre de législation d'exception, ou bien est-ce qu'on s'en rapproche petit à petit ?
J'espère qu'on en est à l'abri sous ce gouvernement. Je ne dis pas que sous un autre gouvernement, on serait à l'abri de ce type de dérogation. Et je rappelle quand même que la Cour européenne des droits de l'homme a dit très clairement à l'Allemagne que les États ne sauraient prendre n'importe quelle mesure, même s'ils la jugent appropriée. On ne peut pas faire n'importe quoi dans un État de droit.
Un Patriot Act à la française, Thibault de Montréal ?
Dans le monde, aujourd'hui, je ne sais pas, je vous dirais non. S'il y a 15 attentats dans des lieux publics en 2 mois, je ne sais pas comment réagira la population.
La population qui risque peut-être justement de demander. C'est ça aussi qui est le rôle du politique.
Est-ce que le Parlement, on vient de le dire, mais ne doit certainement pas réagir sous l'émotion de la population ? Ça me paraît...
Ce sera un vrai débat. Évident.
Bon, enfin, en tout cas, je ne suis pas aussi pessimiste que vous, maître.
Voilà, et on espère en tout cas qu'on n'aura pas le besoin de mener ce débat-là. Merci en tout cas à vous deux d'avoir participé à cette discussion, Thibault de Montbré et Christine Lazerge. Je remercie également à nouveau Pierre Torres qui était avec nous en direct d'Écosse. Je vous invite, si vous vous intéressez à ces questions de lutte notamment contre la radicalisation, à lire une étude du CERIS, c'est le Centre d'études des relations internationales. Il publie aujourd'hui justement une étude sur la lutte contre la radicalisation en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Ils essaient de montrer en quoi la lutte contre la radicalisation conduit à la remise en question du multiculturalisme. Vous verrez, il faut le lire, il y a une vingtaine de pages. C'est en lien sur notre site dont je vous rappelle l'adresse, franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre, sur lequel vous pouvez poster, comme chaque jour, vos commentaires. Voilà, on se retrouve lundi à 18h20. Nous nous demanderons si les leçons de l'intervention armée de 2003 en Irak ont été tirées.